marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine aux luttes sociales et anticoloniales en Martinique et en Guadeloupe. 10 ans après les grands mouvements de grève générale contre la vie chère, c'était en 2009.
Il y a une désespérance générale qui demande des réponses et non pas la répression. Ça fait plus de 2 mois que nous le disons aux responsables locaux. Ça fait plus de 2 mois que nous le disons aux services de l'État. Et visiblement, la situation des Guadeloupéens n'inquiète guère ni M. Sarkozy, ni M. Fillon, ni M. Gégaud. Et d'ores et déjà, nous disons que nous appelons à maintenir la mobilisation parce que nous avons raison.
Que le gouvernement français le sache, que nous les Guadeloupéens aujourd'hui, on ne va jamais admettre ce que l'État français fait. Ce qu'ils ont fait à nos parents, à nos ancêtres, on ne va pas l'admettre nous. Et on ira jusqu'au bout, jusqu'à la mort, on ira.
Les patrons ici considèrent qu'ils n'ont qu'à dire non à tout ce que demande un ouvrier. Non pour le syndicat, non pour l'application des règles et des lois, hein, et non sur le salaire. Mais en réalité, quand ils disent non sur une augmentation de salaire, ils disent non, tu n'existes pas. Et l'ouvrier l'entend ainsi. Parce qu'il ne lui dit pas « Non, je ne te donne pas 10 centimes ». Il lui dit « Non, tu fermes ta gueule ». C'est la violence qui tisse les rapports sociaux. C'est ce qu'on doit comprendre dans l'expression sociale de ce conflit.
Les voix radicales des manifestants guadeloupéens mobilisés à l'instar de leur leader Élie Domota, porte-parole du LKP dans la Marche du Monde. Un mouvement bientôt suivi par le collectif 5 février en Martinique. Nous sommes alors en 2009 et les Antillais se mettent en grève par milliers. Ils cessent de travailler, ils descendent dans la rue et dénoncent la paupérisation. Cette exploitation outrancière, capitaliste et colonialiste. 70 ans après la départementalisation de la Martinique et de la Guadeloupe, c'est toute la spécificité du combat des Antillais pour obtenir les mêmes droits que tous les Français qui s'expriment.
C'est pour notre respect que nous luttons. Pour notre dignité que nous luttons. C'est pour l'égalité que nous luttons.
C'est pour
un bon pouvoir d'achat que nous luttons.
C'est pour
notre éducation que nous luttons.
C'est
pour nos enfants que nous luttons.
C'est
pour nos enfants que nous luttons.
Pour
qu'ils puissent travailler dans ce pays. C'est pour les travailleurs que nous luttons.
C'est pour les chômeurs
que nous luttons. Pour la jeunesse que nous luttons.
Pour
notre dignité que nous luttons.
Pour
nos droits que nous luttons.
La voix d'Élie Domota dans la Marche du Monde entre les oreilles de notre invité Pierre Audin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et l'auteur du livre intitulé « Paupérisation ». Version livresque, publiée aux éditions La Découverte, de votre thèse sur les luttes syndicales et anticolonialistes en Guadeloupe et en Martinique. Et c'est la première étude de terrain sur le sujet, c'est important de souligner. Qu'est-ce qui vous a surpris d'ailleurs en vous rendant en Martinique et en Guadeloupe à la rencontre des acteurs des luttes syndicales depuis la fin des années 50, Pierre Audin ?
Alors, ce qui m'a surpris, ce qui m'a étonné, c'est beaucoup de choses. D'abord, c'était ce grand moment de la grève générale de 2009, avec autant d'organisations mobilisées. Hein, je rappelle 44 jours de grève consécutifs en Guadeloupe, et à partir du 5 février en Martinique, un mouvement qui prend le pas de la contestation. La seconde chose qui m'a beaucoup interpellé, et je pense que le début du reportage rend bien hommage à ça, c'est cette profusion à la fois de revendications et de problématiques qui pouvait y avoir derrière la paupérisation. On lutte à la fois contre la vie chère, mais on lutte aussi pour des revendications sociales, culturelles, pour le travail, pour la vie, pour l'éducation.
Alors pourquoi justement vous avez repris ce mot d'ordre, paupérisation, en couverture de votre livre ? Comment faut-il l'entendre ? Comment faut-il le comprendre ? C'est un mot créole.
Alors c'est un mot créole effectivement qui désigne, comme vous l'avez rappelé, l'exploitation outrancière. Et derrière outrancière, ce qu'il faut entendre, c'est que c'est un slogan, un mot d'ordre qui a ramassé un peu les problématiques à la fois d'exploitation au sens capitaliste, c'est-à-dire la question de l'exploitation salariale, la question du travail, et puis aussi l'exploitation sous sa forme colonialiste. Donc c'est une façon de désigner les inégalités à l'échelle de la société guadeloupéenne ou martiniquaise, mais également de mettre en perspective les inégalités qui peuvent exister entre ces territoires et l'État central.
Enfin, ce sont des territoires qui sont des départements depuis maintenant 70 ans. Comment ce terme de colonialiste doit-il être entendu, du coup ?
Alors, ce sont effectivement des territoires qui sont des départements français depuis la départementalisation de 1946-1947, mais ce sont également des territoires qui souffrent de problématiques endémiques, spécifiques, alors notamment la cherté de la vie, notamment le chômage qui frappe en particulier les populations jeunes, et puis de tout un tas de problématiques davantage culturelles et éducatives qui font qu'un certain nombre d'acteurs, à la fois syndicaux et politiques, et ça a été le cas pendant les mouvements en 2009, vont désigner les inégalités et puis les dysfonctionnements de la société comme étant coloniaux, c'est-à-dire comme soulignant une inégalité de traitement entre l'accès au droit tel qu'on peut le connaître dans l'Hexagone et l'accès au droit, et puis à certaines formes, je dirais, de confort qu'on peut avoir dans les territoires comme la Guadeloupe ou la Martinique.
Alors, vous voulez dire que malgré la diversité non seulement des revendications, mais aussi de ceux qui les portent, c'est-à-dire qu'il y a énormément de mouvements, énormément de syndicats, qui sont d'ailleurs spécifiques, qui sont différents de ceux que l'on peut connaître de manière plus classique dans l'Hexagone. Je pense par exemple aux grandes centrales syndicales comme la CGT, la CFDT. Aux Antilles, il y a des syndicats antillais, et ils sont très nombreux. Mais néanmoins, est-ce que d'une certaine façon, ils seraient fédérés par un même ressenti qui serait lié à l'histoire de la colonisation et même à l'histoire de l'esclavage?
Alors ça, c'est une question un peu complexe parce qu'il faudrait tracer toute la généalogie de l'histoire des résistances à l'esclavage et puis du mouvement ouvrier. Ce qui m'a semblé moins intéressant, c'est de voir que cette perception de la réalité sociale et la façon de la désigner comme coloniale, elle était effectivement commune à l'ensemble des organisations syndicales qui sont dominantes en Guadeloupe et en Martinique, qu'il s'agisse des organisations indépendantistes, comme celle d'Élie Domota, qui s'appelle l'Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe, ou des organisations comme la CGT guadeloupéenne ou la CGT martiniquaise, qui revendiquent aussi une forme de critique de l'exploitation capitaliste, mais toujours en ajoutant cette perspective anticolonialiste.
Alors c'est pourquoi nous allons revisiter ensemble, Pierre Audin, 70 ans de lutte syndicale et anticoloniale en Martinique et en Guadeloupe, de vieilles colonies devenues départements français en 1946 au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'était un projet de loi dont le député martiniquais Aimé Césaire était le rapporteur. Et pour la Marche du Monde, j'avais rencontré Césaire en 2006 à Fort-de-France, mais aussi son ancien bras droit à la mairie de Fort-de-France, le docteur Alicard, pour évoquer cette fameuse départementalisation.
J'ai été nommé député pour partir en France en partant un type qui appartient pourtant à mon parti. Il dit « Césaire, tu reviens avec la Martinique, département français. » Nous sommes une colonie, département, j'ai les mêmes droits. Tout ce qui existe en France peut exister aussi à la Martinique. Pourquoi voulez-vous faire une différence si nous sommes français? S'il y a la guerre, vous m'appelez à faire la guerre comme vous. Mais nous aussi, nous voulons l'égalité. Et nous voulons être des départements français. Mais les gens emploient des mots dont ils ne pèsent pas toujours la valeur et la profondeur. Il y avait une appropriation de termes, qui était le mot à la mode, inventé par les Français eux-mêmes et repris par les Martiniquais en cœur. Nous voulons l'assimilation. Autrement dit, semblable à. Je vais être semblable à toi. Fous-moi la paix. Nous ne sommes pas semblables. Non. Vous avez des cheveux? Moi aussi j'en ai. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas le même nez, ce n'est pas les mêmes yeux, c'est la même bouche. Oui, vous avez votre identité, mais moi aussi, j'ai mon identité. Alors, tu as une identité, moi j'ai une identité. À ce moment-là, je te respecte, mais tu dois aussi me respecter.
Les députés n'ont fait qu'obéir à une pulsion populaire. Parce que ce peuple qui vivait dans la misère aspirait à être traité comme un département, passer de vieille colonie à un département pour bénéficier des avantages sociaux. C'était plus économique qu'idéologique.
Docteur Aliker, lorsque vous demandez la départementalisation avec Aimé Césaire et les autres députés à l'Assemblée nationale, est-ce que vous croyez à ce moment-là que vous allez obtenir cette égalité?
On en était persuadés. Et ça a été une de nos grandes déconvenues. Une de nos grandes déconvenues parce que c'est par bribes et par morceaux que nous avons bénéficié d'une certaine départementalisation, généralement à l'occasion d'élections d'importance nationale. Pour gagner des voix, le gouvernement nous lâchait une bribe, etc., etc. De sorte que c'est de là qu'a surgi l'exigence d'autonomie.
Je suis vraiment d'une race très spéciale. Je suis un nègre départemental.
Une île, la Martinique, et un archipel, la Guadeloupe à la croisée des mondes, dont l'histoire du peuple, comme l'écrit le poète martiniquais Aimé Césaire, commence dans les cales des navires négriers. Deux départements français qui cherchent à se libérer de leur passé esclavagiste et colonialiste pour poser les fondations d'une société, d'une économie plus juste. Est-ce que c'était l'idée même du projet de loi rapporté par Césaire en 1946, Pierre Audin?
Je pense que ce qu'on entend et qui résonne très fortement encore aujourd'hui dans les mots de Césaire et d'Aliker, c'est cette tension entre une aspiration très très forte à l'égalité et puis, de l'autre côté, le désir d'être reconnu comme ayant une histoire, un passé particulier. Voilà, je pense que ça fait partie de cette vieille boutade qu'on raconte souvent sur les populations antillaises. Est-ce que ce sont des Français à part entière ou des Français entièrement à part qui résonnent encore aujourd'hui très très fortement? Et encore plus dans ce moment de la départementalisation où, comme ils l'expliquent eux de leur point de vue de politiciens, je dirais, et d'intellectuels un peu plus intégrés à l'institution, les Antillais, les Martiniquais, les Guadeloupéens essayent de conquérir par bribes des droits à la fois économiques, sociaux et culturels par rapport à l'État central français. Mais ça ne se fait pas du tout sans heurts et c'est toujours suspect d'incomplétude.
Si la départementalisation donne des droits, faut-il encore que les Antillais les gagnent en développant ces luttes sociales sur lesquelles nous allons revenir tout au long de cette émission? Et très très vite, il y a cette déception et cette naissance finalement de ne pas devenir français, mais finalement d'essayer de devenir guadeloupéen ou de devenir martiniquais, c'est-à-dire d'aspirer à une libération nationale. Et ça se passe dès la fin des années 50, Pierre Audin, ses premiers mouvements d'émancipation. Et ce qui me frappe, c'est que en 59, notamment en Martinique, il y a des manifestations avec cette idée de libération nationale qui émerge, et on est quand même au moment où la révolution cubaine a lieu, dans une zone géographique qui est la même, c'est-à-dire les Caraïbes. Est-ce que vous voyez des influences, justement, entre ces différents mouvements?
C'est très très clairement, il y en a eu. La révolution cubaine de 1959, c'est le moment où Fidel Castro, Che Guevara et Cienfuegos prennent le pouvoir à Cuba, va inspirer toute une partie de la jeunesse qui commence à s'identifier à un mouvement résolument anticolonialiste et indépendantiste, et puis va créer tout un tas de dissensions dans les organisations politiques telles qu'elles existaient. Il y a notamment parmi les jeunes qui militent dans les jeunesses communistes, les jeunesses étudiantes et ouvrières, une véritable fascination pour la révolution cubaine, et clairement une forme d'identification à cette perspective d'un soulèvement armé qui rendrait le pouvoir au peuple et qui libérerait la Martinique de son statut colonial. En dehors de ça, il y a vraiment tout un environnement et un imaginaire culturel qui se crée autour de ça. Moi, j'ai plusieurs enquêtés qui m'ont raconté, par exemple, qu'ils venaient d'un quartier populaire de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe qui s'appelle l'Oricisque, et que quand on venait de l'Oricisque, qui était un quartier ouvrier et communiste, on disait, ils viennent de l'Oricisque, ce sont des Cubains.
Sans compter l'influence de la guerre d'indépendance menée par les Algériens depuis 1954, après d'ailleurs que les Indochinois se soient eux-mêmes libérés par les armes du joug colonial français. Donc l'idée de l'assimilation, si on comprend bien, elle est abandonnée, y compris par Césaire, pour être remplacée par l'idée d'autonomie. Est-ce que c'est l'heure aussi de la rupture de Césaire avec le Parti communiste français ?
C'est effectivement le moment de la rupture d'Aimé Césaire avec le Parti communiste français, mais pour toute une partie de la jeunesse qui est anticolonialiste et indépendantiste, cette rupture ne semble pas suffisante. C'est-à-dire qu'elle n'assume pas le caractère, on va dire, indépendantiste d'un projet politique et elle n'ouvre pas la voie à la révolution nationale. C'est ce que vont reprocher toute une partie de la jeunesse qui naît dans cette période de la départementalisation et qui va après participer à des mouvements anticolonialistes qui s'estiment être plus radicaux que le projet politique d'autonomie porté par Césaire ou par le Parti communiste en Guadeloupe.
C'est donc toute la question de la prise de conscience politique des militants pour la libération de leur peuple martiniquais ou guadeloupéen, comme en témoigne Serge Glaude, l'un des étudiants d'outre-mer luttant à l'époque contre l'oppression coloniale depuis Paris. Serge Glaude revient sur le scepticisme des Guadeloupéens face à la départementalisation de 1946 au micro d'Adrien Simor.
La grande majorité, sinon la totalité du peuple guadeloupéen, a subi cette transformation, cette institutionnelle, et il se contentait de faire un jeu de mots là-dessus, quoi. Nous étions assis bouquettes et nous passions assimilés. Et au niveau de la grande majorité de la population, ça ne correspondait pas du tout à une prise de position politique ou institutionnelle. Ils n'ont pas participé à ça. Ils ne se sont pas dit, nous voulons l'assimilation, donc on nous donne l'assimilation, nous sommes heureux. Non. On était complètement à côté de la plaque.
Serge Glaude, comme de nombreux Antillais, est mobilisé pour faire son service militaire en Algérie. Une période qui le marque au fer rouge et scelle son engagement politique.
En 60, je vais en Algérie. On m'impose l'Algérie. On m'impose l'Algérie et c'est grâce à ce voyage en Algérie, j'ai découvert ce que c'était réellement, dans les faits, ce qu'était l'occupation coloniale française. Et ce n'était pas du tout du maintien de l'ordre, c'était de la barbarie pure et simple. Et c'était la domination. Ça me choque et je grave ça dans ma mémoire. Et j'ai continué à parler avec les Martiniquais et Guadeloupéens et je leur ai fait reconnaître qu'il y a une mise en condition pour combattre des Algériens qui étaient colonisés comme nous. Si on a un brin de conscience, on se rend compte qu'il est quand même difficile à un colonisé comme nous d'aller tuer un autre colonisé dans son pays, c'était pas du maintien d'ordre, c'était de la guerre, c'est tout.
À son retour en France, Serge Glaude retrouve ses camarades combattants au sein du syndicat étudiant, l'AGEG. Et en janvier 1963, le GONG, le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, est créé à Paris.
En janvier 63, le 5 janvier 63, le GONG va être créé. Là, j'y étais. C'est le premier groupe qui a parlé de libération nationale. Il était question de montrer qu'il y avait une contradiction entre le fait que la France, en 1945, avait participé, n'est-ce pas, à la création de l'ONU. La même France a signé la charte des Nations Unies. Et au chapitre 11, article 73 de cette charte des Nations Unies, il est uniquement question de la décolonisation des pays colonisés. Donc, nous étions dans notre bon droit. À ce bon droit, la France s'opposait, n'est-ce pas, sa théorie de la République une et indivisible. Mais dans cette République une et indivisible, il y avait, n'est-ce pas, des colonies. nous avons choisi à ce moment-là, peut-être c'était une erreur, mais nous avions choisi de nous développer clandestinement.
La voix de Serge Glaude dans La Marche du Monde. Il participe aux actions clandestines du Gong en Guadeloupe dans un contexte international favorable aux luttes d'indépendance. Et les affiches du Gong, par exemple, proclament vouloir briser les urnes colonialistes, conquérir l'indépendance nationale. Comment l'État français réagit à ce moment-là, Pierre Audin? Parce que l'État français a déjà été défait par les guerres d'Indochine et d'Algérie.
L'État français réagit en mettant en place des services de renseignement et de répression qui vont notamment cibler le Gong dès les années 1966-1967. Et ce qu'il faut savoir notamment, et ce qui va préfigurer en fait de ce que va être la répression de la tentative de soulèvement au mois de mai 1967 qui va faire plusieurs dizaines de morts dans l'agglomération de Pointe-à-Pitre, c'est que le préfet Bolotte, qui est à l'époque responsable du renseignement et de la contre-insurrection en Algérie, va être nommé en Guadeloupe pour surveiller cette jeunesse activiste et anticolonialiste, et puis pour éventuellement préparer sa répression.
Est-ce que le Gong est très marginal dans son action? Est-ce que c'est un groupuscule extrémiste prêt à prendre les armes? Ou est-ce qu'il reflète d'un état d'esprit de la jeunesse engagée de l'époque?
Alors, extrémiste, moi je saurais pas le dire. Ce qui est sûr, c'est que le Gong est une organisation radicale qui prend au sérieux la possibilité d'un soulèvement armé pour chasser la France de la Guadeloupe. Après, la seconde question par rapport à ça, c'est que le Gong est pas complètement une organisation minoritaire. C'est une organisation qui va recueillir une audience tout à fait significative de divers secteurs ouvriers, aussi parmi la jeunesse étudiante, la jeunesse scolarisée, qui s'est radicalisée sur la base des positions des indépendantistes. Et c'est ce qui va faire que le soulèvement de mai 67 en Guadeloupe, au moment de la manifestation des ouvriers du bâtiment, va connaître un certain retentissement politique, et c'est ce qui va inquiéter très fortement les autorités françaises et les amener à réprimer ce mouvement.
Alors que nous sommes donc à la fin des années 60, où en est-on justement, puisqu'on n'est pas très longtemps après la départementalisation, où en est-on de l'application des droits sociaux en Martinique et en Guadeloupe qui justifient ces actions pratiquement violentes?
Alors, où en est-on? On est à la fois dans une situation qui est marquée par des inégalités très 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 fortes et par des contradictions très 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 fortes. Je dis contradictions parce que, par exemple, la période qui va de 1947 à 1967 est par exemple marquée par une forme de massification scolaire. Certes limitée, mais un nombre croissant de jeunes Antillais accèdent à la scolarité et aux études supérieures. Cependant, cet accès, par exemple, à l'école, il ne va pas sans un réexamen critique de ce qu'est la situation et de ce que sont les inégalités qui structurent encore la société. Et notamment le fait qu'il y a manifestement des hiérarchies raciales qui perdurent à l'intérieur de la société. Il y a toute une situation extrêmement difficile pour le salariat d'exécution, pour la classe ouvrière, qui continue de travailler dans les plantations agricoles et les usines sucrières, avec du travail journalier, du travail à la pièce, des conditions de travail qui sont extrêmement dures. Mais il faut bien se rendre compte que tout ce dont les Antillais ont pu bénéficier à la faveur de la départementalisation, ça s'est obtenu au prix de luttes extrêmement âpres. Le fait de pouvoir obtenir des jours de congé et des congés payés, le fait de pouvoir obtenir un accès à la sécurité sociale, le fait de pouvoir obtenir du travail salarié qui ne soit plus uniquement du travail journalier ou à la pièce, tout ça a été l'objet de luttes extrêmement dures qui ont été menées par les ouvriers, et notamment dans le secteur cagnier. Et je parlais de cette jeunesse indépendantiste radicalisée, elle a tout à fait conscience de cette situation-là et de ses contradictions. Elle a tout à fait conscience de la violence de cette situation d'exploitation, et elle envisage, elle, une sortie pure et simple du statut colonial, éventuellement en prenant les armes.
Et c'est pour cela que vous insistez tant dans votre livre sur les événements de 1967 en Guadeloupe, Pierre Audin, des événements complètement effacés de la mémoire française qui n'a retenu que le 68 parisien. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter l'entretien réalisé par Adrien Simor et Richard Rifono avec l'historien guadeloupéen Jean-Pierre Sainton, qui n'est autre que le fils du fondateur du Gong.
La Guadeloupe des années 60, c'est un pays sous-développé. L'industrie sucrière, la principale industrie, est manifestement en crise. Et puis, avec un chômage qui se développe. Et face à cette situation, il y a une crise identitaire, une crise politique, une crise idéologique, une crise morale très forte qui se manifeste au niveau de la jeunesse.
Une jeunesse qui, justement, descend dans la rue, Jean-Pierre Sainton, avec quelles revendications ?
Ben, écoutez, le peuple guadeloupéen, il n'est pas indépendantiste, c'est vrai. Il n'est pas non plus, à ce moment-là, insurrectionnel, c'est vrai. Et De Gaulle est passé, le personnage sans doute politique le plus populaire en Guadeloupe, comme en Martinique et ailleurs. Mais il n'empêche qu'il y a des revendications de fond. Il y a une situation de fond, il y a un état d'esprit de fond qui est, lui, un état d'esprit de rébellion. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui s'exprime en 67.
Et en 1967, qu'est-ce qui déclenche la répression policière ?
Alors, nous sommes le 26 mai 1967 à Pointe-à-Pitre. Et sur la place de la Victoire, en face de la Chambre de commerce, là où se déroulent les négociations entre le syndicat et le patronat. Alors, il y a bien sûr une tension, mais cette tension, elle va exploser. Lorsqu'il y a rupture des négociations et lorsque, sur le pas de la porte, les délégués syndicaux disent, enfin traduisent par une phrase sans doute rapide, que en fait le patron a refusé, disant que lorsque les nègres ont faim, ils reprendront le travail. Et très vite, très vite, en moins d'une demi-heure, la violence monte à un très haut niveau et très vite, les forces de l'ordre, c'est-à-dire gendarmerie et CRS, vont tirer alternativement balles à blanc et grenades assourdissantes et balles réelles, alors qu'en réalité, il n'y a eu aucune insurrection. Et donc, par conséquent, les gens qui passaient dans la rue étaient descendus. Dans la nuit au lendemain, on va terroriser la population, et ça de façon méthodique et systématique et volontaire. J'allais dire qu'il suffisait d'être noir pour être et d'être dans les rues à ce moment-là, de rentrer chez vous tranquillement, d'être très loin de toute manifestation pour être descendu. Et donc, il y a eu des faits qui se sont déroulés et qui sont des faits de ratonnade, de ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, de ce qui s'est passé d'une façon générale dans toutes les colonies françaises bien avant.
Aujourd'hui, Jean-Pierre Sainton, que sait-on du bilan humain ?
Il n'y a jamais eu de bilan officiel. On appelle un bilan officiel un décompte officiel publié officiellement et assumé par les services de l'État. Les historiens qui ont travaillé sur cette question-là, notamment les historiens guadeloupéens, dont moi-même, nous avions qualifié ces événements de massacre. 67, c'est hier, c'est-à-dire que c'est un souvenir extrêmement vivant, personnel, générationnel. Et donc, ça, c'est une première chose. Donc, c'est pour ça que 67 ne peut être oublié. On ne peut pas mettre une nappe dessus et dire que, bon, voilà, ça n'a pas existé, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et puis, il y a une dette. Il y a une dette, je ne sais pas si l'État français pourra jamais honorer cette dette. Ça, c'est les juristes et les avocats à le dire. Mais il y a une dette, en tout cas, qui est la dette de ne pas oublier. Et de ne pas oublier que 67, les événements de 67, témoigne d'un fait colonial, témoigne d'un fait d'une répression coloniale et d'une répression coloniale, j'allais dire à l'algérienne, c'est-à-dire la façon la plus atroce, la plus radicale, pour enterrer toute tentative de rébellion, pour soumettre une population.
La voix de l'historien Jean-Pierre Sainton dans La Marche du Monde, il accuse l'État français d'avoir mené une répression d'État. En 1967, en Guadeloupe, il utilise le terme de massacre. Qu'en pense le chercheur que vous êtes, Pierre Audin, à la lumière des témoignages et des archives que vous avez consultées pour votre thèse et que vous publiez version grand public dans ce livre aux éditions La Découverte, intitulé « Profitation, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique ».
Moi, je suis tout à fait d'accord avec à la fois les analyses et les conclusions de Jean-Pierre Sainton quand il parle d'un massacre et d'un massacre d'État en mai 1967. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte qu'un an avant mai 68, on envisage une sortie du statut colonial, mais elle n'est pas parachevée. Et c'est effectivement une terreur coloniale, c'est aussi ce que vont expliquer des sociologues comme Mathieu Rigouste, mais c'est effectivement une terreur coloniale qui s'abat à la fois sur les militants indépendantistes du Gong, mais aussi sur toute une partie de la population de l'agglomération pontoise à ce moment-là. Et c'est un épisode qui va profondément marquer à la fois le mouvement indépendantiste, mais aussi toute la population guadeloupéenne, et qui va donner du grain à moudre à une critique anticolonialiste, et notamment à celle qui va être développée par les indépendantistes. La seconde chose, c'est que le moment de mai 67, il préfigure d'un changement de stratégie de la jeunesse anticolonialiste, qui, ayant fait l'expérience d'une répression à la fois militaire et policière très très brutale, et puis d'une répression judiciaire aussi, va décider de changer de stratégie et petit à petit se tourner davantage vers le monde du travail et commencer à envisager à former des organisations syndicales.
Effectivement, la répression fonctionne, le gong est démantelé, et pourtant, au procès, des membres du gang, des personnalités très connues étaient venues témoigner à la barre, Jean-Paul Sartre, Aimé Césaire, les représentants de la Ligue des droits de l'homme. Mais c'est vraiment la fin d'un moment révolutionnaire, en quelque sorte, et c'est l'abandon de la lutte armée, contrainte et forcée. Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI. Nous revenons sur cette longue histoire des luttes syndicales et anticoloniales en Guadeloupe, mais aussi en Martinique. En 1974, c'est la grève du Chalvet déclenchée par plusieurs organisations syndicales pour la revalorisation des salaires, notamment dans le secteur de la banane, mais aussi pour réclamer plus d'emplois. Mais leurs revendications sont insatisfaites, c'est alors que les grévistes durcissent le mouvement.
C'est sans doute la situation économique qui est à l'origine des violents affrontements qui se sont produits jeudi après-midi à la Martinique entre forces de l'ordre et manifestants. Le calme est maintenant revenu dans l'île, Bernard Benyamin, mais le climat social reste tendu.
Augmentation du coût de la vie, sans doute plus rapide qu'en France, chômage très important, mauvaise récolte de canne à sucre provoquée par une terrible sécheresse, tout a joué pour que le malaise social s'accentue à la Martinique. Jeudi après-midi, une centaine d'hommes armés de gourdins se dirigent vers une exploitation agricole. Selon les autorités, ils se heurtent à un détachement de gendarmes qui tirent pour se dégager. Selon les manifestants, c'est une véritable souricière qui avait été tendue. Les gendarmes ont tiré dans le tas. Bilan, un mort et 7 blessés, peut-être même 2 morts, disent les organisations syndicales de la Martinique.
La répression de 1974 reste méconnue, bien qu'elle soit commémorée chaque année par les Antillais, un événement majeur dans l'histoire des luttes, comme l'explique l'ancien militant martiniquais devenu historien, Édouard Delepine.
Ce qui est nouveau dans cette grève, c'est qu'il se produit en 1974, comme cela s'était produit en 1935, une intervention extérieure aux directions traditionnelles de la classe, c'est-à-dire le parti et les syndicats. Ce sont des éléments gauchistes. J'étais à l'époque. Moi, je venais de créer, 3 ans plus tôt, un groupe Révolution Socialiste. Et il y avait d'autres groupes. Il y avait des groupes maoïstes, notamment. Bon, septembre 70, il y avait le GAP, le groupe d'action prolétarien. Il y avait d'autres groupes comme ça. Et le Parti communiste avait quasiment abandonné la lutte dans les campagnes. Hein, de 6h à minuit ou à 2h du matin, tous les soirs. On est resté pendant 2-3 mois sur le terrain et on a poussé. Bon, et puis il y a eu ces incidents, ça s'est terminé par 2 morts le 14 février 1974. Mais ce n'était pas nouveau dans l'histoire de la Martinique. Je vous ai dit qu'en 1961, il y en avait eu 3. En 1956, il y avait plusieurs dizaines de blessés. En 1951, en 1948, il y avait eu 3. En 1923, il y en avait. C'était pas la première fois. Seulement, les autres fois, il n'y avait pas de gauchos. Il n'y avait pas des éléments révolutionnaires pour faire mousser, si vous voulez, la situation. Et pour essayer d'exploiter politiquement ça.
Ouvrier agricole, t'es qu'à manifester. Ou bêtier t'es augmenté. Les journées bonnes là, ou bêtier t'es augmenté. Les journées bonnes là, malgré bien organisé. T'es qu'à revendiquer, déjà 3 jours yo qualité. Négociation bloquée, déjà 3 jours yo qualité. Négociation bloquée, n'a dit, ça peut pas durer. Faut yo ni sa yo le, gagne sa yo mérite. Jusqu'alité sans rêter, gagne sa yo mérite. Jusqu'alité sans rêter, l'esprit te ka chauffé. Mouvement ka bat tout vent, pep te ni doit crier. Envie ba yish yo manger, pep te ni doit crier. l'envie baillis yo manger. Vérité petit tête colon qui préférait rester serré. Et puis yo le yo négocier. Yo crié policier. Olé yo négocier. Yo crié policier.
Février 74, chanté par Colo Barst. Le chanteur était encore un enfant à l'époque. Il écrit immédiatement les premières paroles de sa chanson qu'il enregistre 30 ans plus tard, en 2004, et elle devient immédiatement numéro 1 en Martinique.
74, c'est quoi? 74, c'est la première fois qu'on demande aux forces de répression de quitter et qui ne sont jamais revenus. On n'a pas eu de force en place pour la répression. La NPE est née après 74. L'organisation syndicale s'intervient à partir de 1974. Le dialogue social, le bien joli mot dialogue social, apparaît à partir de 1974. C'est-à-dire que 1974 va aussi rentrer dans une dynamique que j'appellerais intelligente de part et d'autre. C'est-à-dire, celui qui réprime se dit eh, « on est allé trop loin » et celui qui subit la répression se dit « il faut qu'on fasse attention » pour qu'on n'ait pas à être réprimé de la même manière. D'ailleurs, dans beaucoup de mouvements de grève actuels, les gens disent, et attention, pas oublier 74, il ne faut pas nous faire qu'on 74, ça veut dire en nous parler. Parce que 1848, on va dire, bon, c'est l'esclavage, mais on en sait ce qu'on nous a dit de 74, on a encore des acteurs vivants de 74, des gens mutilés, qui ont reçu des balles, qui sont là, qui nous disent, le truc était très très dur en 74. Alors, les jeunes, là, quand vous faites ça, là, mollissez un petit peu. Parce que pour que vous obteniez ce que vous avez aujourd'hui, il a fallu des morts pour ça. Alors, patron, modérez, ouvriers, mollissez, organisez-vous, les forces de l'ordre, cogitez, allons s'asseoir avant, et depuis on n'a rien eu, et je sois là et je m'en réjouis pour le fait qu'il n'ait pas eu de sang, et je souhaite vivement qu'il n'y en ait plus jamais. Donc on peut dire plus jamais ça depuis 1974, et en ça que c'est un événement fondamental, je crois.
La voix de Colo Barst dans La Marche du Monde, il cultive la mémoire vive en chantant 74 qu'il a vécu gamin et dont il veut absolument se souvenir pour ce plus jamais ça. Comment vous entendez les paroles de Colo Barst, Pierre Audin?
Quand j'entends les paroles comme ça de Colo Barst qui appellent à cette forme d'harmonie en fait à l'intérieur de la société, j'entends une sorte de discordance des temps. C'est-à-dire que 1974, c'est à la fois l'apogée de cette jeunesse anticolonialiste qui rue dans les brancards et qui décide de se lier à la classe ouvrière, y compris quand elle n'en est pas issue, pour mener à bien cet effort, cette perspective révolutionnaire et anticolonialiste, et peut-être aussi le chant du cygne d'un activisme anticolonialiste, puisque à la suite de ces événements, quand même, le mouvement anticolonialiste en Martinique va connaître une certaine perte de vitesse.
Alors c'est très intéressant d'ailleurs parce que dans votre livre Profitation, vous montrez que les luttes syndicales et anticolonialistes en Guadeloupe et en Martinique évoluent différemment. C'est-à-dire qu'en Martinique, il y a une sorte de répartition des tâches entre les syndicats et les partis politiques, alors qu'en Guadeloupe, les syndicats sont très politisés. Comment vous expliquez cette différence d'approche ?
Elle peut s'expliquer par une histoire politique différente, notamment par le fait que en Martinique, il y a eu un véritable succès des organisations de ce qu'on pourrait appeler une gauche autonomiste, avec le Parti progressiste d'Aimé Césaire, avec le Mouvement pour l'indépendance de la Martinique. Et donc, il y a eu un véritable espace de l'autonomie et de l'anticolonialisme institutionnel. Là où en Guadeloupe, il y a eu, dans la même période, un certain effondrement, ou au moins un affaissement de la gauche institutionnelle, du Parti communiste et de ses avatars ultérieurs en Guadeloupe, et petit à petit la captation de l'ensemble du champ politique par des avatars, on va dire, de partis hexagonaux, Parti socialiste ou droite républicaine. Donc ce qui va faire qu'en Guadeloupe, à l'inverse de la Martinique, c'est le mouvement syndical qui va capter l'essentiel des préoccupations et du projet politique indépendantiste. C'est pour ça que l'UGTG naît quasiment à la même période, hein, en 1973, il y a vraiment un recentrement du mouvement indépendantiste sur une perspective syndicale.
Pierre Audin, comment s'articule la lutte contre ceux qui profitent, puisque ce mot d'ordre « profitation » accuse justement ceux qui profitent, c'est-à-dire peut-être les descendants des béquets, en tout cas ceux qui ont toujours le pouvoir économique, de maintenir ces inégalités aux dépens du peuple qui lui-même s'inscrit dans une filiation des anciens esclaves, des anciens travailleurs de la canne avant la départementalisation et qui continue à s'inscrire dans ce petit peuple qui est au chômage, qui est obligé de payer les produits de première nécessité 30% de plus que dans l'Hexagone. Comment justement les syndicats s'attaquent-ils à cette classe de profiteurs qu'il dénonce, alors que dans le même temps, dans les patrons, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, il y a beaucoup de noirs. Donc comment s'articule ce discours de la lutte des classes, ce discours marxiste, avec en même temps ce discours anticolonialiste ?
Alors, différemment, selon les organisations et selon les courants politiques dont ils se réclament. Ça dépend un peu des priorités politiques qu'ils affichent au sein de leurs organisations respectives. Une organisation comme l'UGTG en Guadeloupe, qui s'appelle l'Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe, qui est un syndicat qui revendique l'indépendance de la Guadeloupe et qui en a fait son projet politique, va mettre en place tout un travail de formation culturelle et historique pour justement former ses adhérents et ses recrues à une connaissance de toute cette histoire, de celle des luttes anti-esclavagiste.
C'est une espèce de formation obligatoire d'ailleurs. Ça consiste en quoi ?
Ça consiste à des formations qui sont dispensées soit par des historiens sympathisants du mouvement indépendantiste, ça peut être des conférences, ça peut être aussi pendant les journées de formation syndicale, simplement un démo des adhérents, qui parfois peut être un enseignant, et qui vient raconter cette histoire que cultive l'UGTG, qui est l'histoire des luttes et des résistances anti-esclavagistes et ouvrières, pour faire exister un certain nombre de contradictions aussi, et pour tenter un travail de conscientisation et de politisation. Il y a ce beau slogan de l'UGTG qui dit il faut faire marcher la mémoire pour faire avancer la conscience. On fait une mémoire marcher pour faire conscience avancer. Et le travail de l'UGTG, ce que moi j'appelle une forme de syndicalisme intégral, c'est non seulement une organisation qui prend en main le travail de représentation et de défense des salariés, mais aussi tout un travail d'éducation populaire.
Et en ce qui concerne le rapport justement au patronat, puisque ces syndicats sont des syndicats anti-patronat, et en même temps, paradoxalement, la plupart des patrons qu'ils ont en face d'eux, ce sont des noirs comme eux, et ce sont souvent même des petits patrons.
Alors la plupart, c'est un petit peu compliqué de le dire. On peut quand même fonctionner avec l'idée qu'il y a une grande partie du patronat, des postes d'encadrement en Guadeloupe et en Martinique qui sont occupés par des personnes blanches, que ce soit des personnes d'origine hexagonale ou que ce soit des personnes d'ascendance béquée, donc des blancs créoles.
Donc les grandes familles qui étaient avant les familles qui détenaient les plantations et qui, pour la plupart aujourd'hui, sont celles qui détiennent le marché de la grande distribution, donc les supermarchés.
Le marché de la grande distribution, pas uniquement la grande distribution, aussi l'automobile, enfin tout un tas de produits manufacturés qui sont importés en Guadeloupe et en Martinique. Mais ce que je voulais dire par rapport à... Alors effectivement, par rapport à l'UGTG, l'UGTG a un positionnement particulier puisque c'est un syndicat qui revendique la lutte des classes, mais qui revendique aussi une forme de pragmatisme face à la situation concrète du tissu économique. C'est-à-dire que comme elle envisage l'indépendance de la Guadeloupe, elle n'envisage pas forcément, du jour au lendemain, de se passer de la structure économique telle qu'elle existe, y compris du petit patronat noir local, vis-à-vis duquel elle est parfois relativement tolérante quand il y a des entorses au droit du travail. Je ne vais pas dire de tolérance qu'il laisse tout passer. On peut très bien, pour l'UGTG, convoquer un patron, et puis sur la base d'un argumentaire nationaliste ou patriotique, essayer de lui faire entendre raison en lui disant « mais tu es patron guadeloupéen, tu as une responsabilité dans ce pays, tu ne peux pas te comporter en colon ». Et ça, pour l'UGTG, c'est important de maintenir cette perspective à la fois, je dirais, à l'échelle de la société guadeloupéenne, oui, nous sommes des exploités et des colonisés, mais tous les patrons ne sont pas forcément des colons. Et ça, c'est une nuance politique qui est à la fois liée au logiciel indépendantiste de l'UGTG, mais qui trouve tout un tas de déclinaisons pratiques dans la façon d'envisager le syndicalisme, les rapports salariaux, et puis le projet de société pour une Guadeloupe indépendante.
Alors néanmoins, aujourd'hui, ce combat entre la République une et indivisible et les nationalistes a été gagné par la République. Mais vous montrez très bien que les indépendantistes se sont emparés du champ culturel.
La Galilende, il est inné, nous qu'a marché en les sentiments nous. Frère Congo et tout yéa, ou dit maman, moi mon fromage yéa, à la gadi d'allô,
j'ai
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 à la gadi d'allô,
Notre cœur, notre corps est blindé, nous allons à la lutte, nous avons marché, marché, nous sommes tombés et nous nous sommes relevés. Ce sont les paroles célèbres du chant Chez nous blindés du groupe Tambou Bocanal que je vous laisse interpréter, Pierre Audin. Ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'affirmation du discours politique, il est dans la musique du carnaval.
Alors effectivement, il y a toute une forme de réappropriation et d'exaltation de cette culture populaire, et puis ces mots, ces paroles, cet appel à la lutte, hein, qui est mis en musique par Tambour Bocanal. Tambour Bocanal, c'est une organisation carnavalesque qui est basée dans un quartier populaire de Fort-de-France en Martinique, et qui a fait de cette lutte pour la promotion de la culture martiniquaise un combat politique, et qui est assez qui est présente à la fois dans les moments de carnaval et puis qui organise tout un tas de sociabilité, de quartier, tout ce travail d'éducation populaire dont je parlais au niveau de l'agglomération foyalaise.
Alors 10 ans après 2009, nous avons ouvert cette émission sur 2009 et nous allons clore cette émission sur 2009. On constate quand même que après ce grand mouvement du début du 21e siècle, aux dernières élections, notamment les européennes, les Antillais se sont abstenus à 85%. Qu'est-ce que ça vous inspire alors qu'on est quand même dans une société apparemment assez politisée?
C'est difficile de savoir et de faire autre chose que des analyses au doigt mouillé, à la fois sur cette abstention très très forte et puis en Guadeloupe notamment sur les scores qui ont été réalisés par le Front National, qui est quand même pas l'organisation la plus, on va dire, la plus raccord avec ses idées indépendantistes.
Qui s'appelle aujourd'hui Rassemblement National.
Oui, avec le Rassemblement National. C'est effectivement peut-être la conséquence d'une forme de désintérêt, d'un sentiment à la fois de peut-être de désarroi et peut-être d'abandon. Alors est-ce que ça préfigure d'une forme de désertion de la lutte? J'en suis pas sûr. Je pense que parmi tout un tas de fractions de la population qui sont descendues dans la rue en 2009, il reste un souvenir extrêmement fort de ce sentiment de refaire de la politique en bas de chez soi, de dignité retrouvée, de forme d'organisation. Et peut-être qu'elles vont continuer à exister et à se développer malgré le désintérêt pour une participation électorale ou pour les orientations qui traversent aujourd'hui la vie politique dans la France hexagonale.
Je vous remercie beaucoup, Pierre Audin. Je rappelle le titre de votre livre. Vous allez me le prononcer en créole.
Profitation.
C'est du créole, ça?
La profitation.
Et avec l'accent?
La profitation.
Eh oui, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique. C'est aux éditions La Découverte.
La voix pichon. La voix réglée, la voix notée. Les temps mouillés ou les temps beaux. Pour nous vivre, y'en chumé nous.
J'ai nous blindé.
Profitation, 70 ans de lutte contre l'exploitation aux Antilles. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde réalisé par Richard Rifonneau et préparé par Adrien Simor. Je vous invite à réagir sur nos comptes Facebook et Twitter. Exprimez-vous, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.
Nous marcher,
j'ai nous blindé.